J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Philippiens au chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Et puis pendant que vous tournez, j'aimerais prendre un temps pour remercier l'Assemblée pour le fait que vous avez souligné la fin de mes études. Et puis maintenant, je peux dire, tout est accompli. La semaine dernière, j'ai remis mon dernier travail. Gloire à Dieu pour ça. Mais je voulais vous remercier pour cette tendresse que vous avez soulignée à notre égard, à mon épouse et moi. Et puis, il y en a qui se posaient des questions. Comment ça, tu t'en doutais, là? J'ai comme mentionné que je me doutais un peu du cadeau, mais il y a des gens de la famille qui étaient un petit peu en lien dans tout ça, qui ont laissé paraître quelques indices qui m'ont fait douter sur ce qui s'en venait. Je savais pas quand, mais je voyais que ce qui s'en venait. Mais je rends gloire à Dieu pour ça. Et puis, c'est une joie pour Cynthia et moi d'avoir grandi depuis, ça va faire maintenant 15 ans que je suis à l'église ici, et puis d'avoir grandi pendant toutes ces années-là. Je voulais pas broyer, mais c'est inévitable. De voir la grâce de Dieu dans notre vie, de voir comment Dieu nous a fait grandir, de grandir spirituellement, de grandir aussi, je crois et je l'espère bien, en sagesse dans tout ça. Et puis, c'est un plaisir pour nous de servir au milieu de vous aussi. Et puis, la tâche est grande, c'est pas toujours facile, mais par la grâce de Dieu, on est béni au milieu de vous, puis c'est une joie de servir ici. C'est une bénédiction de servir jour après jour, avec vous tous, mais aussi avec Yannick, avec les gars du conseil. Michel n'est pas là, mais avec Robert, avec Danny aussi, qui est de l'autre côté. C'est une joie pour moi de servir ici. Je suis grandement béni de ça. Ce sont des hommes de Dieu qui me motivent à grandir dans ma foi, à grandir à être centré sur Christ, centré sur l'Évangile. Et si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de ces hommes-là que Dieu a placés dans ma vie. Et je veux rendre toute la gloire à Dieu pour ça. C'est une grâce de Dieu pour moi. Mais je suis aussi encouragé de voir l'unité qui grandit au sein de l'Assemblée. Et ça déborde aussi. Ça va jusque dans notre association d'Église. Tous unis ensemble pour l'Évangile. Et je vois que Dieu nous fait grandir dans cela. Et puis, par la grâce de Dieu, je commence maintenant à servir ici à temps plein soutenu par l'Église. Et je m'attends à des grandes choses de la part de Dieu cette année. Il continue de nous faire grandir ensemble pour sa gloire. Ceci étant dit, je vais lire le passage dans lequel je vous ai demandé de tourner dans Philippiens 3 et on va plonger ensemble les regards dans la parole de Dieu ce matin et voir qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire dans ce passage. Philippiens 3, verset 1, Paul dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. Nous nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, on se présente devant toi, tous ensemble, devant ton trône de gloire, devant ta majesté. Devant ta majesté, Seigneur, devant ton règne sur toute la terre. Alors que les anges crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », toute la terre est pleine de sa gloire. Et comme Ésaïe, nous tombons à genoux devant toi, notre Dieu, car tu es le Dieu saint, le Dieu juste, devant qui nous ne pouvons pas nous présenter. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu as envoyé ton Fils Jésus. Tu l'as fait devenir péché pour nous, pour qu'on puisse devenir justice de Dieu. Et maintenant, Seigneur, à l'ombre de ta croix, par la repentance et la foi que j'ai placée en toi, tu me donnes cet accès auprès de toi, devant ce trône de gloire. Seigneur Dieu, on se présente devant toi, on veut reconnaître qu'on se place devant ta parole parce que c'est par elle que tu nous parles. C'est toi qui nous parles par ces écrits que nous avons devant nous ce matin. Et nous voulons, Seigneur, te prier par ton esprit de nous rendre attentifs au message de ta parole. Seigneur, donne à mes auditeurs, donne à moi-même des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre les merveilles de ta parole et pour se délecter devant ce grand festin pour notre âme. Seigneur, nourris-nous ce matin, enseigne-nous et que ta gloire puisse être manifestée dans nos vies et dans cette Église, à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Paul écrit le passage qu'on lit ce matin dans Philippiens 3 dans un contexte particulier. Dans ce contexte où Paul se trouve, Paul est dans les liens. Il mentionne entre autres dans le premier chapitre qu'il est dans les liens et donc il est en prison à cause de l'Évangile. Et c'est important pour nous de saisir cela, de comprendre que Paul est dans un moment de souffrance et dans un moment où il souffre à cause de l'Évangile lorsqu'il écrit ces paroles-là. À plusieurs reprises, on voit aussi dans le livre des Actes, puis on voit le récit de Paul qui a été emprisonné, qui a été saisi par les chefs religieux, par les autorités romaines qui proclamait l'Évangile. Et on voit aussi que c'est pas seulement Paul, mais aussi les apôtres, à plusieurs reprises, ont subi des outrages à cause de Christ. Au début, c'était lui qui persécutait les chrétiens. C'était Paul qui courait et qui allait dans les maisons pour persécuter les chrétiens. Mais un jour, après avoir rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, Paul est devenu celui qui est persécuté maintenant. Il y a eu ce changement-là dans la vie de Paul. Et pour bien comprendre le passage de ce matin, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Paul pour qu'il passe d'un persécuteur à un persécuté, on a besoin de plonger nos regards dans ce chapitre où on voit vraiment ce changement qui a eu lieu dans la vie de Paul, où il a été saisi par Jésus-Christ. Mais en même temps, on voit qu'à travers ces souffrances-là, à travers les souffrances que Paul est en train de vivre, Paul est en mesure de dire et d'encourager les chrétiens de Philippe de continuer de persévérer. On voit entre autres dans le chapitre 1, les versets 12 à 14, que Paul se réjouit de ce qui lui arrive au milieu de cette souffrance-là. Chapitre 1, verset 12, il dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Et Paul se réjouit d'être dans les liens. Pourquoi? Parce que par son exemple, d'autres ont plus d'assurance maintenant pour faire progresser l'Évangile. Et Paul est en mesure maintenant de dire qu'il se réjouit. On voit ça au chapitre 3, verset 1. En plus de se réjouir, il va exhorter les frères à se réjouir eux aussi dans le Seigneur, au milieu de cette épreuve qu'ils peuvent vivre. Ça semble bizarre. Ça semble bizarre que Paul puisse trouver ça un sujet de joie d'être en prison, d'être emprisonné, de pouvoir pratiquement rien faire. Il me semble qu'à sa place, si j'étais un évangéliste comme lui ou un gars qui voulait implanter des églises, j'aimerais juste ça, être dehors puis être sur le terrain en train de prêcher l'Évangile. Mais Paul se réjouit de ce moment-là de souffrance dans lequel le Seigneur le conduit. Et ce texte s'inscrit aussi dans un contexte où les Juifs viennent influencer les chrétiens de l'Église de Philippe. Paul va émettre une mise en garde au verset 2. Entre autres, il va dire « Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis. » Pourquoi? Parce qu'il y a certains Juifs qui essayaient, par la loi, d'enseigner que le salut et la justification devant Dieu s'obtient par l'observation de la loi. Et Paul, il dit de prendre garde à ces choses-là et il dit aux chrétiens de Philippe, je vais pas me lasser de vous répéter les mêmes choses, probablement des choses qu'il leur avait déjà dit en personne, et il va prendre le temps dans ce chapitre pour expliquer exactement ce qui a besoin d'être rappelé et qu'est-ce qui a fait ce changement dans la vie de Paul de passer d'être un juif suivait la loi, obéissait à la loi, vers un chrétien prêt à être persécuté. On voit entre autres verset 3 aussi que Paul va dire, il va finir le verset 2 en disant qu'il y a des faux circoncis, mais il va dire que les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. On va prendre le temps de déballer tout ça tout au long du chapitre, mais qu'est-ce que Paul est en train de dire? C'est prenez garde à ceux qui veulent, qui sont les faux circoncis, qui croient que la gloire vient de la chair, d'observation de la loi, parce que le vrai culte à Dieu, c'est un culte qui est rendu, comment? Par l'Esprit de Dieu, à cause de Jésus-Christ. La vraie circoncision, en fait, c'est pas une circoncision dans la chair, mais c'est une circoncision du cœur. On voit ça dans plusieurs écrits de Paul et aussi dans l'Ancien Testament, on va voir ça tout à l'heure. Mais elle a pour effet de rendre un culte à Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que cette œuvre-là s'opère, de rendre un culte agréable à Dieu, et c'est par Jésus-Christ, c'est pour la gloire de Jésus-Christ seul que c'est possible, et la chair n'y est pour rien. Donc, ce problème qui est avec les Juifs qui influencent amène Paul, dans sa lettre, à exhorter les chrétiens à poursuivre le seul but valable devant Dieu dans cette vie. Et le seul gain valable pour tout homme, c'est celui d'une relation profonde et intime avec Jésus-Christ. Le seul but que nous devrions poursuivre dans cette vie, c'est de vivre à la lumière et à l'intérieur d'une relation avec Jésus-Christ seul, et de développer en profondeur cette relation-là afin qu'on puisse glorifier Christ. Et ça ne vient pas de nous, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça en nous. Mais cette idée-là est complètement insensée pour la majorité des gens aujourd'hui. Dire que le seul but dans cette vie, c'est de poursuivre une relation intime et profonde avec Jésus-Christ, on prêche ça, et je prêche ça ce matin, peut-être vous êtes ici, vous dites, c'est bizarre ton affaire, là. Dire que le seul but que je dois poursuivre dans cette vie, c'est de développer une relation profonde et intime avec Jésus-Christ. Es-tu sérieux? Il me semble qu'il y a bien d'autres choses que je pourrais poursuivre. Il y a même plusieurs chrétiens, plusieurs qui se disent chrétiens, qui pourraient être sceptiques devant cette affirmation-là, que le seul but valable, c'est de développer une relation intime et profonde avec Jésus-Christ. Alors que d'autres sont prêts à affirmer que c'est réellement, sans l'ombre d'un doute, que c'est leur seul but dans la vie, connaître Jésus-Christ et entretenir une relation profonde avec lui. Mais pourtant, même parmi ceux qui disent ça, et je suis probablement un de ceux qui va déclarer ça, lorsqu'on regarde notre manière de vivre, on réalise, il semble parfois, qu'il arrive que ce but n'est plus celui qui est en avant de nous, mais qu'on dévie de ce but-là. Celui de développer une relation intime et profonde avec Jésus-Christ et de lui rendre toute la gloire. Mais à la lumière du texte de ce matin, j'aimerais proposer trois éléments importants à considérer dans la poursuite du but ultime de votre vie afin de pouvoir vivre une joie véritable dans le Seigneur. Et Paul écrit ces choses-là pour la joie des Philippiens et pour notre joie aussi. Et nous allons regarder ensemble les trois éléments qu'on voit dans ce texte-là qui nous amènent et qui nous donnent les bonnes raisons pour poursuivre une relation intime et profonde avec Jésus-Christ. La première raison, c'est qu'il n'y a aucune récompense à poursuivre les choses de ce monde. Et on voit entre autres que les versets 4 à 6, Paul va mentionner qu'une vie religieuse ne mène à rien. Paul disait, « Moi aussi, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis davantage. » Et puis là, il énumère une série de choses qu'il faisait alors qu'il essayait d'appliquer de toutes ses forces la loi de Dieu et d'en faire partie intégrante de sa vie pour être trouvé juste devant Dieu. Mais Paul se comptait parmi ceux qui avaient le plus raison de se confier dans ses propres œuvres pour être reconnu juste devant Dieu. Pourquoi? Entre autres, parce qu'il faisait partie du peuple de Dieu, le peuple que Dieu avait choisi. Et là, c'est ce qu'on voit, entre autres, à travers la circoncision que Dieu avait donnée à Abraham et à toute sa descendance, qui était la marque de l'alliance que Dieu avait donnée à Abraham. Et tous les premiers-nés devaient être circoncis le huitième jour, et Paul fait partie de ces gens-là, de ceux qui sont entrés dans cette alliance avec Dieu, par la circoncision, qui fait partie du peuple de Dieu, qui est de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Et là, Paul, par nature, par sa descendance, par le fait de ce qu'il a hérité de ses parents, entre dans cette alliance avec Dieu. Et il aurait sujet de se glorifier de ça. D'autres choses qui auraient sujet de se glorifier, c'était qu'il était un pharisien zélé. Les pharisiens étaient probablement, on les voit souvent d'un point de vue négatif dans les relations avec Jésus. Il avait raison de le voir de ce côté-là, mais en même temps, c'est des hommes qui cherchaient à appliquer la loi de Dieu de tout leur cœur afin d'être trouvés justes devant Dieu. Et ils poursuivaient, c'est ce que Dieu avait demandé après tout, de suivre la loi, de lui obéir, et ils poursuivaient ces choses-là. Et Paul se déclare pratiquement irréprochable à cause du fait qu'il suivait la loi en tant que pharisien. Et en plus de ça, les sectes qui se soulevaient et puis qui venaient mettre de l'ombre dans la loi et la poursuite de l'obéissance à la loi. Paul est devenu un persécuteur de ces sectes-là et il était un persécuteur de l'Église finalement parce que c'est comme ça qu'il voyait l'Église au début, comme une secte et on doit la persécuter. Et son zèle était rempli d'un désir d'être trouvé juste devant Dieu. Et il se considérait même jusqu'à dire qu'il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, Paul avait toutes les raisons pour se dire « Je suis celui qui a raison de se confier dans la chair. » Par contre, qu'est-ce qu'il va faire? Verset 7. On voit que dans ce passage, ce zèle et cette ferveur à observer la loi ne résultaient que dans une perte. Il dit au début du verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Pendant longtemps, il croyait qu'il faisait des gains en observant la loi, qu'il serait trouvé juste devant Dieu en observant la loi. Il croyait qu'il aurait obtenu la faveur de Dieu en le faisant. Il voyait ça comme le prix à gagner, l'obéissance à la loi et s'efforcer à mettre en œuvre la loi de Dieu. Mais finalement, pour lui, il est arrivé un moment dans sa vie où il a vu tout ça comme une perte. comme une poursuite inutile dans sa vie. D'observer la loi de Dieu, de lui obéir, de s'efforcer dans le but d'être trouvé juste devant Dieu, c'était devenu une perte entièrement pour lui. Si pour Paul, c'était devenu complètement inutile, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Les bonnes œuvres, ou observer la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Si c'était une perte pour Paul dans son temps, est-ce que c'en est une pour nous aussi? Il y a plusieurs gens qui viennent à l'Église, semaine après semaine, comme quelque chose qu'ils doivent faire afin d'être bien vus devant Dieu. Chaque dimanche, il y a des gens qui sont assis ici dans la salle, qui viennent dans le but de mériter la faveur de Dieu en venant à l'Église et en cherchant à mettre en pratique ce qui est enseigné. Et réfléchissez un instant pour vous-même. Qu'est-ce qui vous attire ici ce matin? Qu'est-ce qui vous attire ici semaine après semaine? Cherchez-vous à être trouvé juste devant Dieu en venant à l'Église et en cherchant à pratiquer ce qui est enseigné du haut de la chaire ici? Pour les plus jeunes, certains pourraient dire, « Moi, je viens à cause de mes parents. J'ai comme pas le choix, puis c'est correct. Ça a été de même dans ma vie pendant longtemps. Et puis, c'est parfait comme ça, mais dans un sens, il y a quelque chose de plus. » Il y a quelque chose de plus que de venir ici parce que tes parents viennent ici. Pour les plus âgés, certains peuvent dire que c'est bon de venir à l'Église, ça nous approche de Dieu. Après tout, je suis un chrétien, il faut que j'aille à l'Église. Mais si c'est réellement ce que vous pensez, que vous allez trouver la faveur de Dieu en menant une vie religieuse, il faut se détromper. Pourquoi? Parce que Paul dit que c'est une perte totale de suivre la loi de Dieu et d'espérer de trouver la faveur de Dieu en obéissant à la loi de Dieu. Alors, si tu penses que tes bonnes œuvres comptent dans la balance et que Dieu va tu vas arriver devant Dieu et tu vas dire, « Regarde, Seigneur, tout ce que j'ai fait pour toi, regarde ça comme de la boîte, comme de la boue, comme une perte. » Mais il y a une raison pour regarder ça comme une perte. Et on va le voir, on va arriver là. Mais si l'observation de la loi de Dieu vaut rien, puis que c'est une poursuite inutile, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette vie qui est une poursuite utile? Peut-être que ce n'est pas dans l'observation de la loi, peut-être que c'est dans la spiritualité ou une autre façon de faire. C'est peut-être pas l'observation de l'Ancien Testament qui fait que je vais trouver la faveur devant Dieu, c'est peut-être autre chose. Lisons un petit peu plus loin, verset 8. Paul va dire, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et donc, toute chose, il voit toute chose comme une perte. Et juste à la fin du verset, il va dire, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et donc, pour Paul, ce n'est pas seulement la poursuite de la loi et l'obéissance à la loi, mais c'est la poursuite de toute chose qui vaut absolument rien. Si tu poursuis de tout ton cœur à trouver une épouse, fonder une famille, avoir des enfants, avoir un bon job. Si c'est ça que tu poursuis dans ta vie, c'est inutile. Ça vaut absolument rien. Et le monde nous propose toutes sortes de choses que nous pourrions poursuivre. Ça peut être la connaissance, la formation, avancer à l'université, au séminaire même, aller chercher des maîtrises et des doctorats. On peut poursuivre ça de tout notre cœur, poursuivre à chercher la connaissance afin de comprendre notre monde et tout ça, comment on peut entrer en relation avec Dieu. Je vais me mettre dans les livres et je vais étudier. D'autres choses, c'est la confiance dans nos propres forces, la confiance en soi pour accomplir des choses extraordinaires. Le monde nous dit, crois en toi et va au bout de tes rêves. Tu vas y arriver. Tu as des rêves devant toi? Crois en toi, vas-y. Est-ce que c'est ça vraiment? La richesse, une société qui nous ferait croire que le vrai bonheur se trouve dans le nombre d'argent, le montant d'argent que j'ai ou le nombre de choses que je possède. Évidemment, toutes ces choses-là ne sont pas nécessairement inutiles. Mais si notre poursuite ultime dans ce monde se limite à une ou plusieurs de ces choses-là, ça mène à rien. C'est ce que Paul dit. Ça mène à une perte totale. Paul dit au verset 8 qu'il regarde toutes ces choses-là comme de la boue. Et la question, présentement, qui est devant nous, c'est qu'est-ce que tu es en train de poursuivre présentement de tout ton cœur? Quel est ton but ultime dans la vie? Lorsqu'on nous poursuivons ces choses-là, ça mène qu'à la perte. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose qui vaut réellement la peine, et c'est le deuxième élément qu'on a à considérer lorsqu'on veut atteindre le but ultime dans cette vie, c'est que la seule véritable récompense et la joie se trouve et s'obtient par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Je vais relire les versets 7 à 11 pour juste se remettre dans le texte. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Connaître le Seigneur Jésus-Christ personnellement est le seul moyen d'être trouvé juste devant Dieu. Paul a regardé toute chose comme une perte. À cause de quoi? À cause de qui? À cause de Christ. Parce que Christ lui-même est le seul, le plus excellent, le seul but à poursuivre dans cette vie. Ce qui importe réellement, début du verset 9, et c'est là, c'est pour ça que Paul regardait toute chose comme de la boue, parce qu'il poursuivait une chose, c'est d'être trouvé en lui. Si je poursuis toutes ces choses-là en dehors de Christ, ça mène à une perte. Il y a une seule chose qui compte, c'est de poursuivre réellement une relation intime avec Jésus-Christ et d'être trouvé en lui. Pourquoi j'ai besoin d'être trouvé en lui? C'est parce qu'il y en a juste un qui a rempli entièrement toute la loi et qui permet maintenant aux hommes de devenir justes. Ce n'est pas dans l'observation de la loi, mais c'est réellement en étant trouvé juste en Jésus-Christ. Pour ça, pour certains, ça peut sembler un jargon un peu bizarre, tout ça, d'être trouvé juste, d'être justifié, de gagner la faveur de Dieu, d'entrer en relation avec Dieu. Laissez-moi juste vous expliquer un petit peu, avec des termes un peu plus, peut-être, plus clairs pour vous illustrer d'une certaine façon qu'est-ce que Paul est en train de dire ici. Paul cherchait à être trouvé juste devant Dieu. Et le langage qui est ici, c'est un langage légal. Pareil comme si vous deviez faire face à la justice. Vous êtes coupable de quelque chose, disons un meurtre, qu'on est capable de prouver hors de tout doute que vous êtes le coupable. Vous avez été pris sur le fait, toutes les preuves sont contre vous et vous devez vous présenter devant la justice. La Bible déclare en fait que tout homme sont coupables devant Dieu. Tous les hommes, tout le monde, chaque individu qui vit sur cette terre est trouvé coupable devant Dieu, comme un meurtrier qui se présente devant la justice avec toutes les preuves contre lui. Et en fait, un jour, c'est la réalité. Un jour, on va tous mourir, ou Jésus va revenir et on va avoir à se présenter devant ce tribunal, devant la justice de Dieu. On va se présenter devant Dieu, mais comment est-ce qu'on va se présenter? Lorsque la Bible nous dit que nous sommes tous coupables devant Dieu, comment est-ce qu'on va réellement se présenter devant lui? Et ce que Christ a accompli, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être trouvé en Christ, pour obtenir la justice qui ne vient pas nécessairement de la loi par l'obéissance de la loi, mais qui vient de la justice qui vient par la foi. Parce qu'un jour, Christ, dans son amour, est venu sur la terre, il a pris une forme humaine, il a vécu une vie sans péché, sans jamais péché une seule fois, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est parfait, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit que celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, pour que nous soyons trouvés en lui justice de Dieu, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est venu sur la terre pour subir la condamnation que tous les meurtriers que nous sommes, pour prendre sur lui la condamnation, la punition, et faire en sorte que, étant donné que ce juste a été puni à ma place, il puisse me donner sa justice, afin que par la foi en lui, je puisse être trouvé juste devant Dieu. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Il y a quelqu'un, tu es coupable, mais il y a quelqu'un qui a subi la justice de Dieu à ta place. Il y a quelqu'un qui a été condamné à mort sur une croix et qui est ressuscité le troisième jour pour que tu puisses être rendu juste. Et cette justice que Christ a accomplie, ça vient pas de nous, ça vient de Dieu. C'est une grâce que Dieu fait à tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Et comme on l'a dit précédemment, ce n'est pas une vie religieuse, une recherche, une poursuite de toutes sortes de choses, à essayer d'entrer de quelconque façon en relation avec Dieu qui est important, mais c'est plutôt d'être trouvé en Christ par la repentance, en se détournant de nos péchés et en reconnaissant que seul Jésus-Christ a la justice qui peut m'être transférée pour que je puisse paraître juste devant Dieu. Et ça, on l'obtient par la foi, en croyant en lui. Jésus-Christ a offert le seul sacrifice valable pour que je puisse être rendu juste. Et lorsque nous venons à connaître Jésus-Christ personnellement par la repentance et la foi, on entre dans une nouvelle relation intime avec Jésus-Christ. Et Paul décrit ceci comme quelque chose d'excellent. Et le seul gain véritable, c'est celui qu'on obtient par une relation intime avec le Seigneur Jésus et vivant. Tournez avec moi dans Jérémie 9. Et puis, on va lire ce passage dans Jérémie 9 parce que tout ce dont Paul parle dans Philippiens 3 fait un écho à Jérémie 9. C'est un écho de ce texte qu'on voit dans l'Ancien Testament où Dieu déclare exactement qu'est-ce qui est le plus important, l'important de poursuivre. Jérémie 9, versets 23 à 25. Jérémie 9, 23. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas dans leur cœur. » Et Paul parle de circoncision dans Philippiens 3, il parle de circoncision du cœur. Et c'est quoi cette circoncision du cœur? C'est de ne pas poursuivre plein de choses qui sont inutiles, mais plutôt de poursuivre la connaissance de Jésus-Christ et d'entrer en relation avec lui. Vous pouvez revenir dans Philippiens 3, on va poursuivre. Il arrive un changement lorsqu'on arrive à connaître Jésus-Christ, un changement dans notre poursuite ultime. On ne met plus notre gloire à mettre nos efforts à être rendu juste devant Dieu ou à plaire à Dieu pour mériter sa faveur ou dans les choses du monde. Mais Paul nous explique qu'il y a un changement lorsqu'on est en Jésus-Christ et qu'on entre dans une relation intime avec Jésus-Christ. C'est que maintenant, plutôt que de se glorifier dans nos propres œuvres, on se glorifie seulement en une seule personne qui a tout accompli pour nous à la croix, et c'est la personne de Jésus-Christ. Je veux me glorifier seulement de ce que Christ a fait pour moi. Je suis perdu sans lui, mais à cause de ce qu'il a accompli pour moi à la croix, je peux trouver maintenant le pardon, la justice devant Dieu. Et suite, mais ça ne s'arrête pas là tout ça. Une fois que je suis trouvé juste devant Dieu, il y a un changement dans notre poursuite ultime. Et qu'est-ce que c'est cette poursuite-là? Fin du verset 8. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Et un seul but maintenant dans notre vie, c'est celui de gagner Christ. Gagner Christ, c'est de connaître Christ dans la plus profonde intimité. parce que c'est quelque chose d'excellent de connaître le Seigneur Jésus et de chercher à poursuivre, de le connaître de toutes nos forces, de toute notre pensée, de toute notre âme, de tout notre cœur, à l'aimer et à entrer en relation intime avec lui. Que veut dire Paul dans ce langage, versets 10 et 11, quand il dit « Je vais connaître Christ et la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort » pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Est-ce que Paul est en train de vouloir mourir martyr absolument pour devenir pareil comme Jésus qui est mort sur une croix puis un jour ressuscité comme Jésus? Ça a l'air bizarre un peu tout ça lorsqu'on le lit comme ça, mais je pense que les meilleures explications pour ce texte-là, c'est de comprendre qu'est-ce qui est arrivé exactement lorsqu'on est entré en Jésus-Christ. Romains 6, versets 5 à 11, on ne tournera pas, mais vous pouvez le noter, nous explique exactement qu'est-ce qui s'est passé à notre conversion. Notre vieil homme est mort et nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Il s'est passé quelque chose à notre conversion du fait que nous sommes morts à nous-mêmes. Toute notre poursuite, nos buts, c'est devenu de la boue. Et en ressuscitant avec Christ, le but change et maintenant je veux entrer dans une relation profonde avec lui. Mais il y a aussi, c'est pas juste quelque chose qui arrive lors de notre conversion, mais quelque chose qui se poursuit aussi, de jour en jour, comme disciple de Jésus-Christ. Paul était en prison, il souffrait pour le nom du Seigneur Jésus dans ça ici, et je pense qu'il croyait réellement que les souffrances qu'il était en train de vivre, en souffrant ce qu'il était en train de souffrir à cause de Christ, il se devenait de plus en plus semblable à Christ à travers ça, mais aussi vivait une communion encore plus intime avec Jésus-Christ, étant dans les souffrances. Et c'est, là, on voit Paul dans la prison, dans les souffrances, dans les choses difficiles, mais je pense que toutes nos souffrances sur la terre nous permettent de connaître Christ davantage. Lorsqu'on entre dans cette relation avec Jésus-Christ et qu'on connaît combien il a souffert pour nous, combien il a été abandonné de Dieu, on peut voir chaque souffrance à l'intérieur de la souveraineté de Dieu dans nos vies pour pouvoir connaître Christ encore mieux. Plusieurs exemples, puis Paul il va le mentionner dans d'autres épîtres, combien il a souffert, combien il a vécu des outrages pour le nom de Christ, et à travers tout ça, qu'est-ce qu'il disait? C'est lorsque je suis faible. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que dans la souffrance, je connais Christ, et Christ vient pour me relever et me faire vivre. À la fin, verset 11, c'est comme si Paul faisait des efforts pour parvenir à la résurrection. Et dans ma Bible, dans la traduction que j'ai, ça dit « si je le puis, pour parvenir, si je le puis à la résurrection d'entre les morts ». Est-ce que Paul doutait qu'il allait ressusciter des morts puis vivre dans l'éternité? Je pense que la traduction ici est un petit peu difficile à comprendre, mais ce que Paul essayait de faire, c'est que par tous les moyens possibles, je veux arriver à la résurrection d'entre les morts et à connaître Christ réellement. Et être rendu conforme à Christ. Et là, pour ceux qui douteraient, peut-être que Paul voudrait faire des efforts pour arriver à la résurrection, lisez les versets 20 et 21 à la fin du chapitre, où Paul déclare réellement que déjà, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, Paul n'est pas en train de douter plutôt de la résurrection, est-ce qu'il va y arriver réellement, mais plutôt cherche par tous les efforts possibles d'être rendu conforme à Christ et d'être trouvé en Christ et de connaître Christ à travers ce que Christ a vécu. Et Jésus-Christ s'est humilié, il n'a pas considéré ses propres intérêts, il a été prêt à souffrir pour nous sauver. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait réellement. Il a subi la souffrance, il s'est humilié. Et lorsqu'on veut apprendre à connaître Christ réellement, souvent, là on voit l'exemple de l'apôtre Paul, mais sans aller dans tous ces détails-là, je pense qu'il y a des choses un petit peu moins souffrantes qui parfois nous permettent de refléter Christ et de connaître Christ davantage. On parle souvent d'être prêt à souffrir pour Christ, mais je crois que le modèle de Christ dans cette épître ici, c'est l'humilité. Et ça se présente dans toutes sortes de facettes dans nos vies, dans nos poursuites, oui, mais aussi dans nos relations dans l'Église. Ça arrive des fois qu'on a des relations un peu difficiles dans l'Église. On a de la difficulté, des conflits qui arrivent, des situations difficiles. Et Paul va parler d'humilité dans cette épître-là. Et comment on arrive à l'unité ensemble, c'est par l'humilité, d'incarner ce que Jésus-Christ. Et il se peut que tu es au milieu d'une relation difficile dans l'Église, et je ne veux pas pointer personne parce que J'en connais plusieurs. Fait que si vous sentez visé, c'est pas vous que je, pas de vous que je parle. Je sais que c'est des choses qui se vivent dans l'Église, des relations difficiles. OK? Ce que Paul est en train de dire, c'est que si tu veux connaître Christ réellement, humilie-toi et cherche l'unité à tout prix. C'est ce que Paul cherche à exprimer ici, entre autres dans le chapitre 2, qu'on ne considère pas notre propre intérêt, mais que comme Christ, on considère celui des autres. L'humilité et pas poursuivre nos propres intérêts, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais quelque chose de glorieux. Car ainsi, on apprend à connaître Christ. Des fois, ça peut sembler négatif de renoncer à un intérêt personnel et à s'humilier, mais c'est quelque chose de glorieux. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, à travers l'humilité, j'apprends à connaître Christ et à être uni avec lui. Finalement, je pense que Paul veut exprimer ici que gagner Christ et connaître Christ, ça veut dire d'être prêt à tout pour communier avec Christ dans son humilité. C'est une bénédiction pour le croyant de communier avec Christ, d'entrer en relation avec lui. Et c'est, comme je disais, ce n'est pas quelque chose qui est juste une journée dans ma vie, j'ai connu Christ. C'est quelque chose qu'on travaille et qu'on cherche à entrer en relation avec lui et continuellement chercher à gagner et à connaître Christ davantage. Cette communion avec Christ permet aux gens autour de nous de connaître Christ et nous permet de connaître Christ aussi. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples lorsque vous aurez de l'amour les uns pour les autres, lorsqu'on est prêt à connaître Christ jusqu'au point de le refléter dans tout ce qu'on vit ensemble comme Église. On est en train de partager l'humilité de Christ. Qu'est-ce que Christ a fait pour nous? Le témoignage d'humilité et d'amour envers eux. Mais maintenant, nous aussi, on a besoin d'incarner cette humilité-là. Et comment je vais vivre cela? Comment je vais poursuivre de gagner Christ? C'est quoi lorsque le désir et le but ultime que je dois poursuivre, c'est de connaître Christ, comment je vais le vivre? Ça veut dire quoi exactement? Concrètement, là, aujourd'hui, en 2012, je vais me réveiller demain matin, tu me dis de gagner Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va clarifier ça ensemble. Reconnaître, premièrement, qu'il n'y a rien de plus de valeur que Jésus-Christ. C'est le Dieu tout-puissant, glorieux, ressuscité, vivant aujourd'hui, qui un jour va nous donner la vie éternelle à ceux qui placent leur foi en lui. Et reconnaître qu'il n'y a rien, absolument rien, qui a plus de valeur que de gagner Christ. Deuxième chose, renoncer à un confort personnel dans le but de donner à l'œuvre de Dieu. Ça se peut que le Seigneur me bénisse, d'une certaine façon, avec une entreprise ou quelconque façon, un bon travail. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois poursuivre et continuer à chercher à gagner plus? Oui, mais pour gagner Christ. Si tu veux gagner Christ, renonce à un confort personnel, puis donne à l'œuvre de Dieu pour que les gens connaissent qui est Jésus-Christ. Tu l'as connu? Cherche à connaître Christ en le faisant connaître. D'autres façons d'être prêt à se sacrifier même, des fois, c'est pas tout le monde qui vit aisément, mais des fois on a des sacrifices à faire pour pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu et pouvoir donner. Il se peut que j'ai à souffrir pour donner et faire connaître Christ. Je vais gagner Christ lorsque je vais renoncer à tout et être prêt à me sacrifier entièrement pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Une autre chose, servir par la force du Saint-Esprit dans l'humilité à la manière de Jésus-Christ, en étant prêt à souffrir pour le nom de Christ. Donc, lorsque tu sers dans l'Église, gagne Christ à travers ton service. Comment? Je ne veux pas le faire par mes propres forces. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux le vivre par l'Esprit de Dieu, mon service. Et donner toute la gloire à Jésus-Christ pour les bénédictions qu'il accordera à travers ça. Mais mon désir, c'est de servir le Seigneur dans l'humilité, d'apprendre à connaître Christ à travers le service, en étant rempli du Saint-Esprit et en donnant toute la gloire à Dieu. Et peut-être pour certains, ça veut dire consacrer ma vie entièrement pour l'œuvre de Dieu, en répondant à l'appel que Dieu place sur ma vie. Ce point-là, ça m'est arrivé un jour, mais j'ai toujours, en quelque sorte, dans ma vie, cherché à poursuivre la gloire de Dieu. Toujours, non, c'est pas vrai. Je me suis converti un jour, puis l'Esprit a fait ce changement en moi pour que je puisse chercher à glorifier Dieu. OK, on corrige ça, là, je suis en train de dire des faussetés ici. Je n'ai pas toujours cherché à glorifier Dieu. C'est le Saint-Esprit en moi qui m'a rendu capable de chercher à glorifier Dieu. Mais depuis le jour de ma conversion, tranquillement, je grandis dans mon désir de glorifier Dieu. Et un jour, j'ai vu un moment donné dans 1 Timothée 3 que celui qui aspire à la charge d'évêque aspire à une œuvre excellente. Et on parle d'anciens évêques, pasteurs, on les inclut tous ensemble, tous ces termes-là ensemble. Et puis j'étais placé devant ce texte-là, puis ça fait quelques années de ça. Puis dans mon cœur, mon désir pour la gloire de Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne veux rien d'autre que quelque chose d'excellent pour toi. Et je vais faire tout pour être irréprochable et pouvoir te servir et désirer cette œuvre de devenir un jour participant dans le service en étant un ancien évêque, pasteur, nommez-le comme vous voulez. Mais c'est devant ce texte-là un jour de désirer une œuvre excellente. On va le dire dans d'autres mots, de gagner Christ. C'est devant ce texte-là qu'un jour le Seigneur a fait ce changement, a ouvert les yeux en fait, puis dire « Oui, c'est ça que j'aspire. Je veux quelque chose de rien d'autre qu'excellent pour Dieu. » C'est la grâce de Dieu dans ma vie, l'œuvre du Saint-Esprit. Mais mon désir, depuis ce jour-là, c'est de consacrer ma vie entièrement à l'œuvre de Dieu, que ce soit pendant un certain temps, je travaillais dans le séculier, puis je consacrais de mes argent à l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je suis à plein temps, soutenu par l'Église. Quelle que soit la façon dont Dieu t'appelle, consacre-toi à être trouvé excellent et désirer cette œuvre excellente, de servir de tout ton cœur le Seigneur. Et pour Paul, connaître Christ, ça voulait dire mourir à notre ancienne nature pour revêtir Christ et être prêt à communier avec Christ dans les souffrances, dans le but d'arriver à la résurrection d'entre les morts comme des vainqueurs. Et le seul but ultime à chercher, gagner Christ. Versets 12 à 14, Paul va conclure cette partie de passage-là en disant, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul oubliait, mettait tout en arrière afin de gagner Christ et de le connaître intimement dans une relation avec lui qui l'amenait à travers les souffrances, à travers l'humilité. Je vais conclure, je ne lirai pas le reste du passage, mais Paul va parler dans le reste du passage d'unité et de demeurer ferme pour gagner Christ. Verset 15, je vais juste lire ce verset-là. « Nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Je vais continuer un petit peu. « Soignez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. » Paul cherchait à ce que l'Église de Philippe soit unie. On désire, nous désirons comme anciens, puis j'espère vous aussi dans votre cœur, que l'Église de l'Espoir soit unie ensemble afin de gagner Christ, afin de connaître Christ intimement et de pouvoir vivre pour lui. On doit chercher à marcher dans l'unité en imitant les modèles qu'on trouve dans les Écritures, des modèles comme l'apôtre Paul et d'autres modèles qu'on a eus dans l'histoire de l'Église. Paul était un modèle, il était capable de dire « Soyez mes imitateurs ». Il était un modèle d'humilité qui avait souffert pour le nom de Christ, un modèle de quelqu'un qui n'avait pas considéré ses propres intérêts, mais qui avait donné tout pour l'œuvre, se consacrer entièrement à Christ. D'autres chrétiens aussi, il dit de marcher selon le modèle que vous avez vu en nous. Et donc, il y avait d'autres chrétiens aussi qui étaient des modèles. Alors, frères et sœurs, ce que j'aimerais vous encourager ce matin, c'est « Soyons unis ensemble pour gagner Christ ». Et à partir de là, qu'est-ce qui va arriver? L'Église a besoin de modèles, des hommes et des femmes modèles dans le service de Christ et de gagner, dans le but de gagner Christ. Encore aujourd'hui, l'Église a besoin de modèles. On le voit entre autres, verset 17, comme je disais, Paul cherchait à ce que les gens l'imitent lui-même, mais aussi que les gens portent leur regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et l'Église Dans l'histoire de l'Église, il y a multiples frères et sœurs qui sont des modèles pour nous dans leur foi. Mais encore aujourd'hui, l'Église a besoin de serviteurs, leaders qui vont être des modèles d'humilité, prêts à souffrir pour la cause de Christ et de l'Évangile. Les Philippiens avaient le privilège d'avoir Paul et ses compagnons, les voir servir, et c'était des vrais leaders. Parce que les vrais leaders, ce n'est pas ceux qui savent diriger. Les vrais leaders, c'est ceux qui sont dans le service, prêts à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Et nous avons besoin, dans l'Église, de modèles comme ça. D'hommes, de femmes prêtes à se s'humilier, à servir et à se donner entièrement pour que l'Église puisse ensemble marcher dans l'unité afin de gagner Christ. C'est un défi pour chacun de nous. Devenir des modèles de dévouement entier dans le but de gagner Christ. On veut consacrer nos cœurs à connaître Christ afin de devenir des modèles pour d'autres. Et finalement, Paul va conclure à la chapitre 4, verset 1 en disant, « Très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Ensemble, on doit chercher à demeurer unis ensemble dans ce seul but de gagner Christ. On doit s'encourager les uns les autres. Et si des fois j'ai un frère ou une sœur qui est en train de, je le vois, oups, il a perdu de vue, puis il dévie de la course dans de gagner Christ, il ne faut pas que je sois gêné d'aller le voir et dire, « Hey, mon frère, ma sœur, je vois ça dans ta vie depuis un certain temps. » Je réalise que ton seul but, ce n'est pas celui de gagner Christ. Gagne Christ. Et ceux qui, pour chacun d'entre nous aussi, peut-être que quelqu'un va venir nous voir, va nous dire, « Hey, tu as dévié de ta course, mon chumé. Hein? » Cherche à gagner Christ. Soyons unis ensemble. Soyons prêts à ce qu'un frère, une sœur vienne nous voir, nous dise, « J'aimerais ça te voir passionné encore un petit peu plus pour l'Évangile. » Puis que gagner Christ soit ton seul but ultime dans ta vie. Je vais m'avancer ici. Je n'étais pas prévu, mais je vais m'avancer. Si jamais un jour vous voyez que gagner Christ n'est plus le seul but dans ma vie, puis vous commencez à douter, venez me voir et dites-moi-le, s'il vous plaît. Parce que mon désir, c'est de gagner Christ et de le connaître comme il doit être connu. Alors, l'appel est lancé. Ça se peut que je reçoive plusieurs coups de téléphone cette semaine. Gloire à Dieu si c'est pour ma sanctification. Mais il faut être prêt à ça. Puis je pense que l'humilité que le Seigneur demande ici afin de gagner Christ, ça demande qu'on soit prêt à être ouvert et dire peut-être que j'ai besoin de reconcentrer mes énergies à regarder à Christ et le connaître. Veux-tu gagner Christ? Veux-tu voir tes frères et sœurs passionnés pour gagner Christ? C'est-tu ça que tu veux? Sinon, prie là-dessus. Je vais te dire ça comme ça. Prie là-dessus, mais en même temps, je pense que c'est le travail de l'Esprit de Dieu et qu'on peut arriver à un certain moment donné dans des moments de notre vie où ce n'est pas notre désir, gagner Christ. J'en ai vu certains, j'en ai vu d'autres. Ça devient que ce n'est pas réellement notre but. Mais l'apôtre Paul nous exhorte ici, frères et sœurs, à gagner Christ. Et si vous n'en êtes pas là, allez devant le Seigneur afin qu'il puisse vous aider à enlever ces barrières qui vous empêchent de faire de la connaissance de Jésus-Christ votre seul but. Et tout ça, c'est pour notre joie, frères et sœurs. C'est pour notre joie. Notre joie dans le Seigneur, c'est d'être consacrés ensemble et servir ensemble pour faire connaître Christ et gagner Christ. On va souffrir, ce ne sera pas facile, mais on voit à la fin du passage qu'il y a quelque chose qui nous attend. Aujourd'hui, c'est peut-être difficile, on marche dans l'humilité, mais un jour, déjà, nous sommes citoyens des cieux, mais on attend aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Versets 20 et 21. On a besoin d'humilité maintenant, mais la gloire qui nous est réservée n'a pas de prix. C'est le plus beau cadeau qui nous est réservé, celui de connaître Jésus-Christ et de le voir face à face tel qu'il est. Ensemble, on peut s'exhorter, ensemble, on peut marcher ensemble, on peut être unis à gagner Christ. Et il n'y a aucun but plus important dans notre vie. Et peu importe où sont nos énergies, notre concentration présentement, on doit prier Dieu qu'il vienne nous donner comme seul but à poursuivre de gagner Christ. Parce que c'est le seul but qui donne une récompense éternelle. Et un jour, on va avoir la possibilité de se présenter devant Dieu. On va se présenter devant Dieu et je ne veux pas avoir à rougir parce que je n'aurais pas mis tous mes efforts à connaître Christ et avoir regardé tout comme de la boue. Appliquons nos cœurs à connaître le Seigneur Jésus intimement, profondément. On va se courber ensemble. Mon Jésus, je t'aime. Je te sais à moi. Ou quel charme extrême me retient à toi? Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, ô Jésus. Seigneur, c'est ma prière. Je désire que ce soit la prière de chacune des personnes qui sont ici ce matin. Que le plaisir du monde ne nous attire plus. Seigneur, aide-nous à regarder toute chose comme de la boue, comme une perte. Parce que ce qu'il y a de plus excellent, Seigneur Jésus, la seule chose qui compte vraiment, c'est toi. Seigneur, dans ma vie, je réalise que chaque moment, chaque instant, les moments que je trouve plus difficiles, c'est un moment où je peux entrer en relation encore plus profonde avec toi afin de trouver le secours en toi, de communier à tes souffrances et de te connaître de plus en plus intimement. Seigneur, hier, je voyais mon cœur, je voyais dans la situation qu'on était placé, tu révélais des choses dans mon cœur et je luttais en dedans de moi à vouloir avoir le contrôle sur les événements. Mais ton esprit me chuchotait à l'oreille. C'est à travers ça que tu apprends à me connaître, Alexandre. À travers les moments les plus difficiles que tu vois devant toi, qui te font souffrir, c'est comme ça que tu apprends à me connaître. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ton esprit qui vit en nous, qui nous rend capables de vivre pour toi et de poursuivre ce seul but ultime. Seigneur, ma prière, c'est que si quelqu'un n'a jamais saisi par la foi, par la repentance, ce merveilleux cadeau de la vie éternelle que tu offres, Seigneur, que tu puisses venir faire cette œuvre dans leur cœur ce matin, que tu puisses venir leur parler, leur montrer que seulement ta justice, celle qui a été accomplie à la croix, par ta mort et ta résurrection, qui peut les sauver. Et peut-être que tu es ici ce matin, que tu n'as jamais saisi par la foi ce que Christ a accompli pour toi. Reconnais que dans ta vie, tu cherches à poursuivre plein de choses, sauf le seul but véritable d'aimer Dieu et d'aimer Jésus-Christ. Reconnais que tu as besoin de te détourner de ton péché et de placer ta foi en Jésus-Christ pour recevoir son pardon et vivre dans ce seul but pour sa gloire. Si c'est ce que tu veux faire ce matin, je t'invite à prier ceci dans ton cœur. De prier que le Seigneur Jésus vienne faire sa place dans ta vie, de lui demander pardon pour tes péchés et de saisir par la foi ce qu'il t'offre, afin que tu puisses vivre la joie éternelle. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu accomplis. Fais ton œuvre dans nos vies. Que ta gloire soit manifestée en chacun de nous et dans ton Église. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Juste mentionner si, à travers le message, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont été touchés à travers ça, puis peut-être le Saint-Esprit vous a parlé, vous a convaincu que vous deviez prendre une décision pour le Seigneur Jésus ce matin, de saisir Christ, de faire de lui votre seul but, parce qu'il y a seulement lui qui compte, il y a seulement sa gloire qui compte. Les anciens sont à la porte, gênez-vous pas de prendre quelques instants, puis poser des questions. Puis peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui vous a invité ce matin. Prenez le temps de leur parler de ce qui vous a touché ce matin. Que le Seigneur puisse se glorifier à travers toutes choses. Merci.
Merci, Alexandre.